Hi, everybody. We'll give it.
Bonjour. Prenez place, s'il vous plaît. Dans une minute, on commence.
Everybody's had lunch. Here we are.
Steve Crocker au milieu, au micro, pardon. Bonjour, bienvenue à cette réunion du conseil d'administration et du groupe des représentants des opérateurs de registre. Dans le cadre de nos réunions habituelles avec les différentes parties prenantes, nous sommes ici pour vous écouter et pour mieux profiter du temps qui vous est consacré, aller droit au but, et je ne veux pas être désagréable, mais je vous demanderai d'aller droit au but et d'être aussi concis que possible. Je vais maintenant laisser parler Keith Drazek au micro. Je fais partie du groupe des représentants des opérateurs de registre. Et à côté de moi, une partie des membres de ce groupe. Tout d'abord, merci de cette occasion pour partager avec vous. Aujourd'hui, nous avons le groupe des représentants des opérateurs de registre, mais également des opérateurs, des nouveaux candidats, du groupe des candidats des nouveaux TLD. Alors, ils n'étaient pas encore membres de plein droit dans ce groupe. Mais vous avez donc un groupe plus étoffé aujourd'hui. Aujourd'hui, et ça figure à l'écran, nous allons d'abord parler de l'expérience avec la division des domaines mondiaux, ensuite responsabilité financière, troisièmement acronyme, et quatre, essayer de parler de chacune de ces questions. Sans plus attendre, on passe à la première question, expérience avec la division des domaines mondiaux. Jacob au micro. Merci, Keith. Peut-être que mes collègues vont vouloir intervenir après. Alors, merci de l'opportunité qui nous est donnée de partager avec vous au nom des candidats. Il s'agit d'un mécanisme de responsabilité très important pour l'ICANN et pour le programme des nouveaux GTLD. Nous avons noté que la division des GDD continue d'être plus ouverte et c'est une chose dont on se réjouit. On a vu également une annonce pour Londres. Nous nous en réjouissons également. Toutefois, comme Steve l'a dit, il y a certains problèmes importants qui se posent pour certains nouveaux candidats. Donc, nous encourageons les membres du conseil d'administration à travailler avec les GDD pour essayer de résoudre aussi vite que possible ces problèmes. Nous aimerions également obtenir des informations plus spécifiques données aux candidats pour savoir où ils se trouvent dans ce processus et quelles sont les prochaines étapes à suivre. Par exemple, les candidats ne comprennent pas bien quelles sont les possibilités qui existent, qui sont à leur disposition pour qu'ils avancent, qu'ils progressent. Donc, il faut qu'ils sachent combien de temps ils vont rester dans un statut en attente, par exemple, et avant de pouvoir avancer. C'est un petit peu comme si vous attendez un bus et vous ne savez pas quand est-ce qu'arrive le prochain. Ce sont des informations utiles. Les candidats continuent d'être préoccupés par la question de la collision des noms lorsqu'ils se portent candidat pour un registre. Donc, le rapport qui a été produit a été très intéressant, très important pour faire en sorte que les choses soient plus efficaces. Nous savons que la spécification 13 de ce document a permis de rassembler le point de vue et les commentaires de tous. Donc, voilà ce que nous souhaitions signaler. Ensuite, peut-être que c'est la dernière chose à laquelle on voudrait penser, mais pour les candidats, il est très important de penser au prochain cycle des nouveaux GTLD. Donc, il y a une résolution potentielle qui est en cours et beaucoup d'entre nous pensent qu'il est temps maintenant de faire un bilan et commencer la planification pour l'avenir. Merci du temps que vous nous consacrez. Steve au micro, merci. La plupart des points que vous avez soulevés relèvent du management plutôt que, ou de la direction plutôt que du conseil d'administration. Ashwin, qui va faire partie du comité du nouveau GTLD, peut-être qu'il veut répondre, Sharon. Oui, Jacob et moi avons été en contact récemment et nous sommes très contents du travail du NGPC et ils nous ont remercié du travail que l'on est en train de faire. S'il est là, il serait à Akram, est-ce qu'il est là? Il serait bon qu'il puisse répondre aux points spécifiques qui ont été soulevés. Oui, Fadi au micro. Merci pour les idées et les conseils que vous nous avez donnés pour améliorer les GDD. Nous allons les réviser avec vous au fur et à mesure et voir plus en détail comment mieux communiquer aux candidats, pourquoi ils sont en attente et autres. Donc, améliorer ce service. Mais par rapport à la nouvelle division des GDD qu'on a créée pour mieux vous servir, pourriez-vous nous donner une idée de votre appréciation de ce service de la nouvelle division des nouveaux GDD de 1 à 10? Oui, depuis janvier, j'ai vu que l'accessibilité pour les informations pour les candidats et le forum est très efficace. Donc, il y a une volonté d'interagir et de trouver des solutions pour mieux communiquer. Je dirais peut-être que je m'avance un petit peu, mais je pense que la note que je donnerai, c'est 7 sur 10. Mais il ne faut pas oublier les candidats qui sont un petit peu entraînés dans des délais, dans des retards, pardon. Donc, il faut penser à chaque candidat comme étant important. Fadi au micro, merci. Vous savez qu'on essaie tous de lutter pour obtenir un 10 sur 10. Mais merci de votre point de vue et on va travailler ensemble pour améliorer cette note. Merci. Merci, Jacob. Brad, aimeriez-vous ajouter quelque chose? Qui est au micro? Bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, contributions dans la salle. Jonathan, tu souhaitais intervenir? Jonathan Robinson au micro. Oui, je n'avais pas vu Fadi au bout de la table. Mais j'ai une question dans mon groupe. Est-ce qu'il s'agit d'une question importante pour le conseil d'administration? Il s'agit d'une question opérationnelle dans la mesure où il s'agit d'une question importante, à savoir que le conseil d'administration connaisse bien l'expérience des clients. Et on a fait l'essai. Et l'impression qu'on a eue dans le groupe, c'est que le GDD a fait des efforts pour répondre au GNSO et pour se réunir avec le GNSO et d'autres groupes. Et il y a eu des réponses. Donc, ils sont à l'écoute. Toutefois, il y a encore des frustrations et des problèmes en suspens. Steve Crocker, micro. Oui, merci, Jonathan. En fait, il y a deux niveaux ici. Comme je l'ai dit, le problème de fond relève de la direction du management. Mais on travaille là-dessus. Et il est positif de voir que l'importance de ce problème, de votre point de vue, vient d'une volonté de sensibiliser les membres du conseil d'administration à cela. On a bien compris le message. Merci. Je crois que les candidats, il est important que les candidats sachent qu'ils dépendent du conseil d'administration pour s'assurer que les choses ne sont pas laissées pour compte ou oubliées. Oui, Steve Crocker, Akram est avec nous et Cyrus et Krista et leur équipe également. Ils nous ont bien dit qu'ils vont traiter toutes ces questions. Y a-t-il d'autres commentaires, questions dans la salle? Bien, passons donc à la transparence ou à la responsabilité financière. Je vais maintenant donner la parole à Chuck Gomes. Chuck Gomes au micro. Merci, Keith, et merci à tous les membres du conseil d'administration. Depuis des années, la communauté demande davantage de détails budgétaires. Et plutôt dans le procès, et depuis des années, ça n'a pas été fait. Résultat, il est impossible pour nous de fournir une contribution ou d'apporter une contribution significative à temps afin que cela soit pris en considération par les membres du conseil d'administration avant de voter le budget. Je comprends que ça ne va pas être fait à nouveau cette année. Donc ma question est la suivante et concerne l'exercice fiscal 2016. Allons-nous recevoir les détails budgétaires au moins au niveau du projet avant, au plus tard, février 2015? Ce qui implique une réponse à la question, à ma question, mais également attirer votre attention sur les recommandations de la TRT2. Concernant les questions financières. Oui, Paul Diaz au micro. Pour reprendre un petit peu ce qui vient d'être dit, on nous a dit qu'il y aurait des outils analytiques pour aider la communauté à mieux comprendre quelles sont les dépenses. Et pour reprendre également ce qu'a dit Chuck, le conseil d'administration a bien compris que cela fait partie du processus ATRT2 et des recommandations de la TRT2 de renforcer la planification des cycles, de relier les choses les unes entre elles et qu'il y ait davantage de planification et une participation en amont avec la communauté. Donc, on a entendu cette promesse pendant des années, mais il y a des sommes incroyables qui sont en jeu. Donc, pour la responsabilité de l'organisation, il est important que cela se traduise dans les faits.
Steve Crocker, nous sommes d'accord. C'est très important. Les ajustements à faire, les améliorations à faire d'étape en étape. Mais en attendant, je vais demander à Charine s'il a quelque chose à dire à ce sujet. Charine, et Xavier aussi. Charine Chalabi, nous comprenons complètement ce dont vous parlez. Je pense que le personnel aussi comprend. C'est pas que si nous n'avons pas la bonne volonté de le faire, plutôt, vous avez raison, dans votre frustration, on veut toujours les informations plus tôt et elles ne sont pas données, elles ne sont pas fournies. Il y a eu des transitions sérieuses dans nos systèmes, dans le cadre de travail lui-même, nombre d'objectifs, de buts, de projets, etc., etc. C'est très compliqué. Mais je pense que c'est la dernière année où il y aura des excuses, disons. Cette année, vous avez les données 2 mois plus tard. Et je pense que le département des finances et du management le sait. Nous allons travailler dur, très dur, et nous allons y arriver. Pas seulement pour vous, mais pour nous, parce que nous avons besoin de réviser, d'approuver et de recommander vis-à-vis du conseil d'administration. Nous voulons tous d'entre nous, faire des améliorations dans ce domaine. Xavier Calvez, je vais garder les choses rapides. Comment nous représentons le modèle multipartite et la responsabilité, la transparence, tout cela est dans les processus. Si nous pouvons rendre les choses transparentes et responsables, ou du moins avoir un processus en place qui pourrait démontrer cela, nous, le commentaire que fait Paul et Chuck, les frustrations sont bien compris, le progrès à faire et la frustration qui l'accompagne dans le processus du planning. Et tout ça est bien compris et partagé. Au moins pour moi, je suis frustrée aussi. Nous voulons qu'il y ait de plus de progrès et que nous fonctionnions de façon plus rapide et nous voulons tous arriver au même but. Quand on parle de transition, d'évolution, nous avons mis en place un système de management il y a 1 an et demi. Nous sommes dans notre 2e année. Les choses ne sont pas encore parfaites. Nous maintenons en place un tableau de bord avec des paramètres. Nous sommes donc dans la 2e année. D'utilisation de cet outil, c'est une partie importante de ce nouveau processus. Il y a donc une évolution continuelle, et donc avec les bons outils, cela va prendre beaucoup plus d'efforts et de temps pour arriver à la cible voulue. En attendant, ce que je voulais faire en dehors de ce processus, je voudrais travailler avec les membres de la communauté qui sont intéressés à ajouter des informations, les gens qui voudraient bien travailler avec moi dans la création de ce nouveau processus de planning pour les 12 mois à venir. Pour répondre à Chuck, pouvons-nous fournir plus d'informations au niveau des projets d'ici février? N'importe quelle année d'ailleurs, il n'y a que 12 mois dans une année. Si nous voulons mener, comme nous devrions le faire, des mises à jour stratégiques au début de l'année, utiliser ces informations stratégiques, ces contributions stratégiques dans les projets, dans un plan de développement des projets, et traduire cela en un budget, et faire cela d'ici le mois de février, ce ne peut pas être fait. Pas, du moins pas au niveau des projets. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. J'aimerais travailler avec des personnes, et pas forcément pousser les choses, mais d'apporter les choses, d'amener les choses vers la communauté, du moins au début du projet, au départ du projet. Et avec le plan qui est formulé, et nous n'arriverons pas par contre à donner 5 mois de révision entre la communauté, le conseil, retour vers le personnel, retour vers le conseil. Et c'était la recommandation originale du RTR2. Il y avait une version, vous avez peut-être vu la dernière version, mais il y avait une première version qui disait qu'il devrait y avoir une révision de 5 mois. Ce n'est pas visible. comme Chuck le disait, il n'est pas possible de donner, rendre compte si tôt dans l'année. Si on pouvait augmenter la participation de la communauté au départ, aux premières étapes de la planification, du processus de planification, je pense que cela pourrait aider. Mais malgré tout, cela prendra du travail pour mettre en place ce processus. Steve Koff, ce que j'attendais dans votre réponse, c'était quelque chose au sujet du planning multi-annuel. Xavier, oui, quand on parle du processus de planning stratégique, nos attentes sont de construire un processus annuel qui inclurait la confirmation ou l'amendement des stratégies de façon annuelle, sur une base annuelle. Nous développons une stratégie quinquennale. J'espère que cela sera approuvé. Donc cette stratégie sera traduite par un plan stratégique donc sur 5 ans pour donc accomplir cette stratégie. Donc il nous faut les ressources nécessaires seront mesurées en dollars et cela sera traduit sur 5 déclarations financières au niveau du budget. Il nous faudra une planification quinquennale qui sera associée à un plan stratégique. La première année de ce quinquennat sera donc une contribution au budget annuel pour la première année, ainsi de suite. Donc, nous aurons dans ce processus stratégique un ensemble de finances multi-annuelles qui mesurera donc les ressources nécessaires pour livrer donc cette stratégie. Donc, cette information sera utilisée sur une base annuelle en tant que contribution dans le développement budgétaire. Une observation, dit Bruce Tompkins. Je pense que le Conseil observe un plan stratégique et cela se traduit en plan annuel, opérationnel, ce que le Conseil dit que le budget est suffisant pour pouvoir mettre en place le plan qui est en concurrence avec ce que veut la communauté. Donc, normalement, les éléments sont assortis autour de 5 à 10% du coût de la compagnie. Donc, cela se situe au niveau de la gouvernance du Conseil. De façon séparée, nous avons un niveau technique et là, les ressources sont distribuées au niveau des projets. Par exemple, à LAC, peut-être un projet qui sera un sommet à LAC devrait avoir tel ou tel budget. Ce n'est pas des 1 000 $, pas des millions. On a des demandes pour peut-être une salle à louer pour rajouter une journée aux réunions de la CAN, des choses comme ça. Donc, je pense que nous devons séparer ces deux choses. Ça n'a aucun sens pour Xavier de nous donner un budget au niveau des projets de centaines ou mille de dollars, alors que l'on parle d'opérations, d'autres opérations qui pourraient coûter des millions de dollars. Au niveau projet, il y a des gens qui auront peut-être besoin d'avoir des informations sur ces projets de la part de Xavier, mais on doit séparer cela de la gouvernance du Conseil. Merci beaucoup, dit Keith Strasek. Chuck, vous voulez la parole, Chuck? La réponse à ma question était donc non, si j'ai bien compris. Nous n'obtiendrons pas ces informations. Nous ne pourrons pas avoir une contribution parce que sans information au niveau des projets, nous ne pouvons pas connaître le budget en général. Donc, il n'y a pas de transparence, pas assez, du moins, pour que nous puissions avoir des contributions dans l'approbation du budget de la part du Conseil. Donc, désolé d'entendre cela. Cela ne me rend pas optimiste pour l'avenir en termes de transparence du budget. Steve Koch, Xavier, Xavier, donc votre question, est-ce que je peux avoir, vous pourrez avoir les informations au niveau des projets? Et ma réponse est techniquement, ce n'est pas possible. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas les informations, n'obtiendrez pas les informations régulièrement et que vous ne pourrez pas avoir une opinion à formuler sur le budget. Et c'est là où je veux... Je peux vous dire que c'est pas là, c'est pas pour vous dire que nous pouvons travailler avec vous au niveau de la communauté, que le processus n'est pas fait pour que l'on puisse travailler au long du que les informations puissent être apportées aussitôt pour que vous puissiez avoir une opinion sur les éléments qui composent le budget. Je voudrais donc dire que les temps, les délais pour fournir des commentaires puissent se déplacer au tout début de l'année. Et sinon, nous allons avoir vraiment un gros problème, si vous voyez ce que je veux dire. Merci. Xavier Dikis, Razek, Sharine, vous voulez la parole? Sharine, non, je n'ai rien à dire. Je vais laisser Michael parler. Alors, Fadi, hier, j'ai parlé de connaissances institutionnelles. Une des frustrations que Chuck peut-être était en train de s'exprimer, c'est que comme les choses fonctionnaient auparavant, il y a quelques années, ICANN publiait un budget, la communauté approuvait, et ensuite, il y avait des commentaires qui étaient faits. En 2005, et nous avions une distribution par ce qui était les rentrées et les sorties de l'argent. C'est un petit peu ce qui est frustrant. Depuis que nous avons fait ce changement, au début, nous avions beaucoup à dire. Nos contributions étaient importantes au niveau des priorités. Et maintenant, l'argent... rentre et d'une façon ou d'une autre, cet argent est dépensé. Quand je regarde en arrière, par exemple, les premiers contrats pour .com, par exemple, ces gens-là payaient ICANN $100,000 par an. Et maintenant, ces mêmes contrats coûtent 25 millions de dollars par an. Nous voulons donc avoir des données sur la responsabilité et la spécificité. Et dans un contexte un peu plus large, quand il s'agit de responsabilité de façon historique, quand j'étais au conseil 2005-2006, les RER payaient des millions de dollars par an et les SCC payaient 1,6 million de dollars par an. Ils payent à peu près le même montant d'argent. L'espace G est passé de 3 à 4 millions jusqu'à 90 millions. Et c'est, je pense, ça fait partie de la frustration de Chuck et je comprends. Keith Rysak, oui, merci Mike. Une chose dont nous n'avons pas parlé dans la session de préparation sur un sujet séparé, mais en relation avec les finances, nous voulons encourager la communauté et le conseil pour qu'un processus soit développé au niveau des enchères, des nouveaux programmes GTLD. Nous n'avons pas besoin d'en débattre maintenant, mais les enchères vont commencer et ce problème va devenir encore plus important et très vite, très bientôt. Donc, nous n'avons pas besoin de réponse maintenant, mais je voudrais que l'on fasse note, on prenne note de cela. Donc, continuons. Prochain sujet sur l'agenda. Nous allons passer la parole à Jeff Newman pour parler des acronymes. Les acronymes IGO. Jeff Newman, oui, je présente, mais c'est un avis partagé dans notre groupe, dans notre unité constitutive. C'est très important pour nous, les parties contractuelles, d'amener ce sujet sur la table encore une fois. Nous pensons que nous sommes à un moment constitutionnel maintenant. Nous sommes à une intersection, disons. Je voudrais adresser certains des problèmes de processus et parler un peu de la substance du PDP IGO. Comme vous savez, le PDP, c'est vraiment la chose la plus importante de le processus ascendant. C'est long, c'est douloureux, mais cela fonctionne. Comment est-ce que on en arrive où on en est aujourd'hui? Vous pouvez peut-être vous rappeler. Rappelez-vous, en Costa Rica, il y a quelques années, il y avait une lettre qui avait été envoyée par les organisations IGO, qui avait été envoyée au conseil d'administration et le board, le conseil d'administration avait passé ça au GAC et au GNSO pour obtenir des avis. Et le GNSO, en très très peu de temps, ce n'était pas un PDP, c'était juste un conseil. L'avis avait été donné, l'opinion, un avis avait été donné, un conseil avait été donné au board, au conseil d'administration, et le conseil d'administration a dit non, on n'avait pas vraiment eu le temps de faire des changements, donc nous avait remercié pour le conseil que nous avions donné et nous avait dit ce n'est jamais trop tard d'adresser cela, pourquoi ne faites-vous pas un PDP? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le GNSO, le conseil GNSO a pris sur lui-même de faire un PDP, de passer par ce processus ascendant et d'en ressortir des politiques à présenter au Conseil. Cela a pris d'à peu près 2 ans. Le GNSO l'a fait. Vraiment, plusieurs consensus et recommandations sont sortis. Cela ne fonctionne pas tous les jours, comme vous savez, mais en respect des problèmes d'acronyme IGO, il y a eu un Conseil de consensus. Nous savons que cela est passé par le conseil GNSO et ensuite c'est passé au conseil d'administration. Je sais que nous avons des avis conflictuels du GAC, mais à cause de cet avis du GAC, nous avons référé le problème au NGPC pour qu'il y ait d'autres conseils sur ce qui doit être fait. Le NGPC, il y a moins d'une semaine, a envoyé une lettre au GNSO en disant qu'il proposait ce qu'ils appelaient un compromis au GAC. Et puis envoyer une copie au GNSO pour leur dire ce qu'ils faisaient. Nous comprenons les difficultés auxquelles le conseil fait face. Et nous savons qu'il y aura des conflits potentiellement avec l'avis du GAC. Nous comprenons aussi que si vous acceptez l'avis du GAC et que vous rejetez les politiques de consensus des GNSO, vous allez contre la méthode ascendante, surtout aujourd'hui avec ce qui se passe. Mais aujourd'hui, le Conseil est guidé par certains statuts et les statuts disent que lorsqu'un PDP avec consensus, avec des recommandations de consensus, est présenté au conseil d'administration, celui-ci a 2 options. Soit elle accepte la recommandation et la recommandation est mise en œuvre, soit elle rejette la recommandation par un vote à 2/3 en disant que les recommandations présentées au conseil d'administration ne sont pas dans le meilleur intérêt de l'ICANN ou de la communauté ICANN. Ce n'est pas ce qui se produit ici. Au lieu de cela, le conseil d'administration lui-même a développé des politiques. Il n'a ni accepté ni projeté, il a développé des politiques. Mais il n'y a pas d'espace, rien n'existe dans les statuts de la CAN à ce sujet. Et ce matin, nous en avons parlé au niveau de la LAC. Nous avons vu la transcription de cette réunion. Il a été souligné sur plusieurs occasions que ce n'était pas le travail, les fonctions du conseil d'administration de développer les politiques. C'est exactement ce qui s'est passé. Cela crée une présomption que c'est la façon dont le conseil d'administration, la direction que prend le conseil d'administration, ce qui est très important. C'est similaire en le GNSO, par exemple, le groupe de travail de GNSO a rejeté formellement. Le groupe GNSO a trouvé que il n'était pas dans l'intérêt public d'avoir l'acronyme IGO dans le clearinghouse de marque commerciale pendant Sunrise, afin qu'il y ait une première opportunité d'obtenir ces noms à cause de problèmes tels que .echo, pardon, non pas .echo, mais ECO, l'abréviation pour l'Organisation de coopération économique, ne devrait pas avoir le premier droit d'avoir tous les echo.tld dans tous les domaines. Personne pourrait avoir echo.green. devrait aller dans le domaine d'une organisation basée sur l'environnement. Donc, en substance, c'est juste pour dire que cela a été adressé par la communauté GNSO. Ça a été rejeté spécifiquement. Le PDP a donc observé cela. Quand il s'agit du NGPC, qui pour nous, nous ne savions pas exactement ce qui s'était passé parce que le PDP n'était pas dirigé vers le nouveau GTLD, mais pour les nouveaux GTLD, mais aussi pour les GTLD existants. Il y avait dans la charte, il y avait des recommandations sur les problèmes des nouveaux GTLD. Il y avait donc un impact sur les parties contractuelles et les choses étaient prévues pour amender les contrats qui étaient déjà en place. Ce qui peut encore se produire, je pense vraiment que, encore une fois, nous comprenons les difficultés du conseil d'administration auquel fait face le conseil d'administration. Nous proposons qu'il y ait un compromis. Donc, ce compromis soit ne doit pas être effacé. Si le conseil d'administration, si le conseil va rejeter une recommandation et si cela est accepté aux deux tiers, avec un vote de deux tiers, le rôle du Conseil serait donc de faciliter le dialogue entre le GNSO et le GAC. Ce n'est pas le rôle du Conseil d'administration ou du personnel de trouver un compromis. Laissez-nous faire cela. Ça fait partie du processus. Nous allons nous rassembler avec le GAC et travailler sur ce problème si nous le pouvons. Nous n'avons pas besoin de l'aide. Ça me rappelle le cas de l'intégration verticale lorsque le conseil d'administration trouve une position sur une politique et cela devient la position défaut. Si nous rassemblons avec le GAC et que la proposition est toujours sur la table, au moins nous pouvons présumer qu'elle sera adoptée. Et si le GAC... quand on nous demande... Est-ce que vous préférez avoir que ces recommandations soient rejetées par le bureau, par le conseil d'administration, au lieu d'atteindre un compromis? Oui, complètement. Je sais que ce job est difficile, mais c'est le travail du conseil. Et mon conseil, c'est que le conseil d'administration accepte ou rejette et facilite le dialogue entre les entités. Et ainsi, le PDP peut être respecté et nous pouvons dire que le processus fonctionne.
Okay, thanks, Jeff.
Merci, Jeff. Qui souhaite intervenir? Steve au micro. J'aimerais intervenir là-dessus. Bruce au micro. Oui, merci Jeff. On en a parlé avec les membres du GNSO cette semaine. Donc on va prendre bonne note de vos commentaires et on va obtenir une réponse, essayer d'obtenir une réponse d'ici jeudi. Bien, sur ma liste, j'ai Brad, Chuck, Mike, Palage. Il est important que le Conseil comprenne ici que le fond est aussi important que la forme. Et l'une des raisons pour lesquelles on veut traiter cette question de manière spécifique, c'est en raison du dialogue qu'on a eu dimanche, parce que nous pensons que la procédure n'a pas été suivie ici et nous avons détecté un manque de compréhension au niveau du conseil d'administration et que le processus n'a pas été suivi. Il semblerait que le conseil d'administration pense qu'il agit bien et qu'il n'apprécie pas ce genre de commentaires. Donc je pense qu'il est important, parce que il serait bon que quelqu'un, il n'est pas bon que quelqu'un dise voilà, il faudrait que vous acceptiez ce rapport. Et si ce n'est pas le cas, il faudrait qu'il y ait une motion ou une réponse à cette motion, parce que la rédaction du PDP, en tout cas le terme utilisé dans le règlement interne de l'ICANN, c'est shall, en anglais, shall accept, devrait accepter. Donc, il nous faut répondre à cela dans les temps impartis. Donc, quand on reviendra sur cette question jeudi, j'aimerais qu'il y ait une appréciation par rapport à ce que je viens de dire, et si ce n'est pas le cas, qu'on me le dise. Et pourquoi ? Bruce, au micro, oui, nous sommes conscients de ce problème par rapport au processus. Nous avons bien pris note de ce que vous avez dit. Donc, laissez-nous le temps de nous consulter. Alors, sur ma liste d'intervenants, qui est au micro ? Bruce. Alors, Bruce, au micro, oui. Je comprends bien la situation dans laquelle se trouve le conseil d'administration. Et j'aimerais peut-être revoir d'où est né le problème. En 2006, j'ai participé à un groupe de travail sur les noms de réserve. Et c'est la déclaration que j'ai faite dans le rapport final. Conformément aux principes longuement établis, l'ICANN et l'IANA ont essayé de continuer à maintenir des réserves sur la compilation de chaînes, et l'ICANN et l'IANA continuent à réserver ces noms où les partis, dans le cas de gouvernements nationaux souverains avec des noms de pays et des marques déposées reconnues au niveau national. Donc ce qui s'est passé, c'est que une fois que l'ICANN décide de protéger Huiz, AFNIC et d'autres noms de ce type, alors d'autres peuvent dire ICANN accorde la protection à eux, donc je la veux aussi pour moi. Et toute l'origine du problème, c'est parce que l'ICANN a demandé une protection particulière. Si l'ICANN s'était contenté de dire « je vais appliquer les mêmes droits et mécanismes à Coca-Cola et à Pepsi et aux autres », qu'il faut s'enregistrer sous .icann ou autre, alors on ne serait pas dans cette situation. Et là encore, on parle d'un problème qui remonte à 2006. C'est écrit noir sur blanc. Merci, qui est au micro ? Merci, Mike. On n'a plus beaucoup de temps. Donc, le conseil d'administration vient de nous dire qu'il va travailler là-dessus et revenir avec une réponse. Donc, très rapidement, Chuck, puis Jordan. Chuck au micro. En tant que membre du groupe de travail, qui se réunit pendant 2 heures par semaine depuis maintenant plus d'un an, j'espère que le conseil va se pencher sur ce qu'on a fait. Nous avons une opinion détaillée sur les droits internationaux, sur le droit international par rapport aux organisations intergouvernementales et sur les acronymes. Le GAC n'a pas défendu d'ailleurs cette idée, et il ne s'agit pas d'intégrer la contribution du GAC avec trop de retard. Simplement, il n'y a pas eu de justification à cela. Et comme Jeff l'a dit, l'intérêt public semblait être de ne donner à aucune de ces organisations ces acronymes. Donc, en conclusion, si vous rejetez le fait que vous ne nous dites pas où nous nous sommes trompés, on ne va pas pouvoir avancer. Alors, pour revenir sur ce que Chuck vient de dire, très souvent, vous êtes dans une situation difficile où on n'a pas d'orientation politique claire. Et donc, ça a été le cas avec le programme des nouveaux GTLD. Parfois, on improvise avec plusieurs parties de la communauté. Donc, je crois qu'on se trouve ici dans une situation très différente, où les processus politiques fonctionnent. On attend que les GNSO développent ces politiques, ces processus, et on a besoin que le Conseil joue un rôle de supervision et ne se penche pas sur les détails de telle ou telle politique. Donc je pense qu'il est très important de faire cette distinction. On attend de vous que vous fassiez autre chose, tout tout en laissant l'occasion aux autres d'améliorer leur travail, mais que vous ayez un rôle de supervision. Premier commentaire. Deuxième commentaire qui est lié au premier. Il est important de faire fonctionner le processus de consensus, parce que chaque fois que j'ai parlé à un avocat à propos de ces contrats, il y a une paire d'achoppements sur le contrat par rapport au changement de processus. Et les avocats disent non, on ne peut pas signer ce contrat. Et moi, je passe des heures à leur expliquer qu'il y a des poids contre poids, quel est ce processus qui repose sur le consensus. Et il faut s'assurer qu'on le fait de manière sûre. Donc, si le processus politique qui repose sur le consensus ne fonctionne pas, qui se fonde sur le dialogue, alors il devient impossible pour nous de convaincre nos propres organisations que ce processus fonctionne et qu'on peut gérer de cette manière nos relations avec l'ICANN. Donc, cette procédure existe et il faut continuer à faire, à intégrer de nouveaux partenaires. Merci, Jordan. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir avant de passer au dernier point à l'ordre du jour? Jonathan. Jonathan au micro. Très brièvement, vous avez fait référence au consensus. Vous avez parlé de rareté. Vous avez employé le terme de rareté. Donc là, il s'agissait plus d'un niveau de consensus sur une politique plutôt que du développement de cette politique. Merci à tous. Kiss au micro. Nous allons attendre la réponse du Conseil là-dessus. Prochain point à l'ordre du jour. Les débats en cours à propos de la gouvernance Internet et quelles sont les implications pour les contrats, pour les parties contractantes, pardon. Merci. J'espère que ce point ne sera pas aussi polémique que le précédent. Sarah au micro, Sarah Falvey. Toutes nos organisations passent énormément de temps, en termes de temps, de ressources, pour plaider au sein de nos propres organisations sur cette question. Et nous avons un peu peur d'être laissés de côté dans cette discussion. Avant l'annonce sur l'IANA, on savait qu'il y avait une réunion au Brésil, il y a une résolution du Conseil, et nous savons que l'ICANN doit se préoccuper du modèle multipartite, ça c'est vraiment important, mais je ne peux pas rester les bras croisés et attendre que la communauté voit comment avancer. Mais cela étant dit, nous avons l'impression que nous n'avons pas suffisamment participé au débat, qu'on n'a pas été entendu et que nous sommes directement concernés et affectés par cela parce que nous sommes des parties contractantes avec l'ICANN. Donc il est nécessaire que nous fassions partie intégrante de ces débats et de ces discussions avant de passer à la phase suivante. Et nombre d'entre nous ont l'impression qu'on a été laissés de côté dans ces discussions jusqu'à présent. Je sais que vous êtes en train d'élaborer un processus par rapport à l'IANA, mais il ne s'agit pas simplement d'un processus, ça fait partie d'un débat plus large dont l'IANA fait partie. Donc, dites-nous ce que vous allez faire, mais on veut s'assurer qu'on va pouvoir effectivement participer à ce débat. Merci, Sarah. Qui est au micro? Y a-t-il quelqu'un qui souhaite réagir à ce qui vient d'être dit, poser une question, intervenir? Bruce, oui, simplement pour dire que d'une manière générale, nous sommes d'accord. Et on travaille là-dessus, sur la transition de la gestion des fonctions de l'IANA à une partie tiers. Donc, tout le monde doit participer à ce processus. Deuxièmement, améliorer la mondialisation de l'ICANN et la responsabilité de l'ICANN comme organe. Tout le monde doit y participer, là aussi. Troisièmement, comment faire avec les problèmes plus larges concernant la gouvernance Internet. Effectivement, vous devriez participer au forum sur la gouvernance Internet, surtout par rapport aux choses qui dépendent de notre responsabilité, c'est-à-dire le processus ICANN et la mondialisation d'ICANN. Je crois qu'il est clair que vous êtes invité à participer. Et nous allons vous faire tout notre possible pour que vous participiez à ces débats. Sarah, au micro. Pour vous donner un exemple, je sais que Fadi nous explique que Net Mundial, la réunion au Brésil, est est un effort de l'ICANN et ICANN va faire partie intégrante des discussions au Brésil. Mais effectivement, ça va être une discussion. Mais il serait bon de réserver des espaces pour que toutes les parties prenantes puissent participer effectivement ici au sein de l'ICANN. Que l'on puisse tous participer à la réunion au Brésil, parce que ce qui va en ressortir va avoir un impact sur nous tous. Il s'agit d'un forum et on a l'impression que ici c'est un forum, il va y en avoir un autre et on ne va pas faire partie de ce forum. Donc, passer du temps à voir comment être représenté dans chacune des communautés au Brésil, qui va être représenté. C'est un exemple que je voulais vous donner sur la façon dont on peut travailler mieux ensemble. Fadi au micro. Merci, Sarah. Vous savez que votre participation et la participation de tous dans la gouvernance Internet, au-delà de l'IANA, comme l'a souligné Bruce, est très importante pour nous. Mais justement, si on vous réserve un espace, ça va renforcer l'idée selon laquelle l'ICANN est en train de contrôler cette réunion. Donc, on ne peut réserver d'espace à personne. On ne prend pas ce type de décision. L'ICANN n'est pas secrétariat dans cette réunion. Il y a des milliers de personnes qui disent qu'elles veulent participer. On espère que ça va être le cas. Mais c'est un processus qu'on ne contrôle pas. C'est une réunion indépendante qu'ils organisent. On les a aidés lorsqu'ils nous ont demandé notre aide, mais on ne contrôle pas, on n'organise pas cette réunion. On a bien pris le soin de le dire. Beaucoup d'entre vous vont y participer, au comité qui vont être là au Brésil, mais en aucun cas on ne veut donner le sentiment que l'ICANN est en train de contrôler ou de mettre en place cette conférence. Et réellement, on peut tirer le meilleur parti d'une conférence multipartite. Tous les gens veulent faire part de ce qui est important pour eux. Et le sujet de l'ICANN et de l'IANA va forcément rebondir à cette conférence. Si ce sujet domine la conférence, alors nous aurons perdu une énorme opportunité de montrer que la gouvernance multipartite de l'Internet est sur la bonne voie et sur une voie qui fonctionne, surtout avant le Busan. Et cela va se produire d'ici juin-juillet. Donc, c'est la dernière opportunité que l'on a d'une conférence mondiale où on peut montrer au monde que cette voie de la gouvernance de l'Internet multipartite fonctionne à Net Mondial. Et c'est la dernière opportunité que l'on a pour démontrer cela. Et croyez-moi, les 54 votes d'Afrique attendent avec impatience cela, attendent que cela se passe. Or, on n'y a pas répondu encore. Donc, l'opportunité que l'on a de leur montrer à quel point c'est important pour nous, cette gouvernance Internet multipartite, c'est celle-ci. Donc, si vous voulez participer à cette réunion, n'hésitez pas à le faire. Il s'agit de votre contribution. Venez aussi nombreux que possible. S'il faut organiser des consultations sur la transition de l'IANA en étant au Brésil, on le fera, parce qu'on aura la contribution de tous. Mais laissons la possibilité à cette conférence de montrer au monde qu'il y a une voie multipartite pour la gouvernance Internet. C'est un petit peu ce qu'on attend de cette conférence. Vous savez que Google, la contribution de votre communauté est extrêmement importante pour la réussite de Net Mondial. Merci.
Merci, Fadi. Sage. Nous avons deux personnes qui attendent de parler et ensuite nous allons arrêter cette discussion. Erika, le sommet du Brésil peut être utilisé. Il y a tellement d'une façon intelligente, il y a tellement de confusion en ce moment. La gouvernance de l'Internet d'une façon avec une vision plus grande. Et le fait que vous veniez à cette conférence et à chaque fois que cette conversation prend place, vous voyez qu'il y a une confusion. Ce que j'entends souvent, moi, c'est que le gouvernement ne comprenne pas vraiment comment fonctionne l'Internet. Il voit les grands acteurs qui explorent des opportunités de business vis-à-vis de l'Internet, mais ils ne vous ont pas vu, n'ont pas compris votre modèle. Le fait que vous soyez là va aider et à régler la pendule, disons, et à faire comprendre comment fonctionne la gouvernance de l'Internet. Et bien sûr, ce sont des sujets qui sont plus reliés aux IGF, à l'IGF, mais et à la mondialisation de ICANN. Mais donc, ce serait très important que vous soyez là pour donner une idée concrète et utiliser l'opportunité de Brésil sera importante pour faire connaître votre modèle. Hier, dit à M. Navarro Gonzalo, hier nous avons parlé et nous savons que le mondial est une des réunions que vous allez avoir, un des réunions que vous allez avoir dans l'avenir. C'est important, mais ce qui est surtout important, c'est de voir cet événement dans un certain contexte, d'avoir l'opportunité de partager avec vous et de fait que vous allez participer à cette réunion, c'est crucial si nous allons représenter et présenter ce qu'est l'approche du modèle multipartite et d'avoir votre voix, votre communauté, vous, les participants de ce modèle. C'est la chose la plus importante pour nous. Et de cette façon-là, le message que vous allez présenter à Point Mondial est très important, de trouver la manière comment vous allez faire participer la communauté dans ce processus aux événements à venir est une des priorités les plus importantes que nous devons adresser. Vos commentaires sont donc bienvenus. Nous comprenons ce que vous dites et sincèrement, j'espère que vous comprenez les raisons que Fadi a expliquées et pour le meeting à venir au Brésil et pour les meetings qui vont les réunions de l'avenir. Merci Gonzalo, dit Keith, Becky. Je ne vais pas parler de la même chose, Fadi, je promets. Je suis d'accord, ce serait donc une erreur de parler trop au Brésil de la transition IANA, mais sur ce sujet, il y aura donc d'autres réunions dans le futur, dans l'avenir. Pensez à cela, le IETF et le RIR sont des consommateurs directs de la défonction IANA, donc sont intéressés à la discussion. Les autres consommateurs directs sont les registres, les opérateurs de registres. Ils n'ont, je parle des CC et des G. Ils n'ont pas le même espace, la même place à la table. Donc, il y a des frustrations. Les opérateurs de registres et l'ICANN sont dans des positions complètement différentes que l'IETF et les RR dans ces, au sein de ces négociations. Fadi, vous voulez dire la plateforme net mondiale ou la plateforme transition? Steve Cropper, je ne vois pas ça. Fadi a fait une présentation et il a bien expliqué tout ce qui concerne les groupes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous dites que les CCTLD et les CCTLD et digital ne sont pas à la table, ne font pas partie de la discussion. Becky, ce n'est pas une chose terrible dont je parle, mais c'est une position différente qui doit être adressée, qui doit être du moins gardée en tête. Je suis d'accord avec ce que dit Becky. Les gens qui sont engagés dans la transaction IANA sont tous des opérateurs de registre. Les RIR, c'est opérateurs de registre Internet régional. Ce qu'elle dit, c'est que nous n'avons pas l'équivalence de la part dans le monde des noms à la table, quoi, disons, la présence de cela à la table de discussion. Les opérateurs de registre devraient participer de meilleure façon, mieux qu'ils le font en ce moment, au sein de la discussion. Je ne sais pas quelle est la terminologie qu'on devrait utiliser, mais je ne pense qu'ils ne sont pas assez représentés dans la discussion. Et le point est donc valide. Fadi, je ne veux vraiment pas que vous ne soyez pas assez représentés. Trouvons la solution, donnez-nous des suggestions spécifiques qui nous aideraient, que ce soit des consultations additionnelles, supplémentaires que nous pourrions faire, que NTAG ou que les groupes aient des réunions, que nous devrions les rencontrer. Donnez-nous des spécificités, donnez-nous une idée de comment vous pouvez avoir un impact sur les résultats. Dites-nous, ce n'est pas dans notre intention, quelque manière que ce soit, de favoriser une entité ou une autre entité. Soyez-en sûrs. Merci, Fadi, dit Ray. Très bonne bonne discussion. Je vois que les bureaux d'enregistrement, nos clients là-bas, attendent. Nous allons donc continuer. Merci au conseil pour son temps précieux.